Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 18h30, temps universel du mercredi 20 mars 2019. Raissa Girondin et Abdourahman Dia à la présentation, voici les titres.
Le Mozambique entame 3 jours de deuil national en mémoire des victimes du cyclone Idai qui a fait plus de 300 morts. L'urgence humanitaire s'organise.
Nouveau tournant en Algérie, le chef de l'armée salue les intentions pures du peuple algérien. Le parti au pouvoir, le FNL, dit soutenir les contestations mais prône le dialogue.
Kinshasa reconnaît la responsabilité de politiciens locaux dans les massacres de Yumbi de décembre dernier ayant fait plus de 500 morts.
La première ministre britannique Theresa May demande à Bruxelles un report de la date du Brexit jusqu'au 30 juin.
Et ne ratez pas le marché gabonais des assurances en recul dans la Minute Éco et les dernières nouvelles du monde du basketball dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal.
En Afrique australe, les secours sont dépassés par l'ampleur de la catastrophe provoquée par le cyclone Idai qui a fait au moins 300 morts, des milliers de personnes restant bloquées sur des toits et des arbres. Yacouba Ouedraogo.
La priorité aujourd'hui était de secourir les milliers de personnes qui ont trouvé refuge sur des arbres, des toits ou des îlots formés par les inondations. À certains endroits, le niveau de l'eau a atteint jusqu'à 6 mètres. Près de 350 000 personnes se trouvent bloquées dans des zones inondées au Mozambique, selon le président Felipe Nyusi. Faute de pouvoir être transportés au sec, des sinistrés ont reçu, par voie aérienne, de la nourriture. C'est la pire crise humanitaire dans l'histoire récente du Mozambique, le pays le plus touché, a estimé la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Le cyclone qui a provoqué des glissements de terrain et des inondations a fait au moins 202 morts au Mozambique et une centaine au Zimbabwe voisin. Mais le bilan pourrait dépasser le millier de morts au Mozambique selon le président Felipe Nyusi qui a décrété 3 jours de deuil national. Le pape François a fait part de sa douleur après les inondations implorant le réconfort et le soutien pour les personnes touchées. Le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies a prévenu qu'avec la persistance des pluies dans les prochains jours, la situation va probablement empirer. Des vagues de 8 mètres de haut sont attendues dans la région de Beira, dans le centre du Mozambique.
Le chef de l'armée algérienne exprime son soutien aux manifestations contre le président Abdelaziz Bouteflika. Une déclaration qui donne un signal fort indiquant que la Grande Muette prend ses distances avec le président. Les décisions, des précisions avec Irénée Hermanongbo.
Le lieutenant-général Ahmed Gaed Salah a déclaré que le mois a été marqué par les actes de noble intention à travers lesquels le peuple algérien a clairement exprimé ses valeurs et principes de travail sincère et dévoué à Allah et à la mère patrie. Les commentaires du général faits mardi lors d'une visite dans un garnison militaire et repris par les médias algériens mercredi sont perçus comme un affront public à Bouteflika et à ses proches. L'idée de vouloir briguer un cinquième mandat était une grosse erreur, a déclaré Sidi Kechi Hab, porte-parole du Rassemblement National Démocratique, allié du Front de Libération Nationale, le parti au pouvoir. Ces dernières années, des forces non constitutionnelles se sont emparées du pouvoir et ont dirigé les affaires de l'État en dehors du cadre juridique, a souligné Sidi Kechi Hab. Bouteflika, qui dirige le pays depuis 20 ans, s'est incliné devant les manifestants la semaine dernière en renonçant à sa candidature pour un cinquième mandat.
Et par ailleurs, le FLN, le Front de Libération Nationale, le parti du président algérien Abdelaziz Bouteflika, affirme également ce mercredi soutenir le mouvement actuel de contestation et le changement qu'il réclame, tout en prônant le dialogue initié par le chef de l'État pour sortir l'Algérie de la crise.
En République démocratique du Congo, le massacre de Yumbi, mi-décembre, a été instrumentalisé par certains acteurs politico-administratifs locaux, a reconnu pour la première fois Kinshasa. Un conflit intercommunautaire lié essentiellement à la terre a été instrumentalisé par certains acteurs politico-administratifs locaux, a déclaré à Genève la ministre congolaise des droits humains, Marie-Ange Mouchebekwa, devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Elle a indiqué que le nouveau président Félix Tshisekedi a diligenté des missions d'enquête à Yumbi. Au moins 535 civils, hommes, femmes et enfants ont été massacrés en décembre dans 3 villages du territoire de Yumbi sur les bords du fleuve Congo.
Centrafrique, les autorités et les 14 groupes armés signataires de l'accord de paix négocié début février à Khartoum se sont mis d'accord sur un gouvernement inclusif à Addis Abeba. C'est ce qu'a annoncé mercredi l'Union africaine. Depuis lundi, les signataires de l'accord de paix centrafricain sont à Addis Abeba où l'Union africaine a convoqué une réunion de suivi. Nous y reviendrons dans la partie magazine.
Au Burkina Faso, deux enseignants enlevés le 11 mars ont été retrouvés morts à Kotoko, dans une région du nord du pays. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le ministre en charge de l'éducation, Stanislas Waro. J'ai le profond regret d'annoncer l'assassinat des enseignants Judakael Ouedraogo et Alassane Chekna Sana, écrit Waro dans un communiqué. Les deux enseignants avaient été enlevés sur l'axe Djibo-Kongossi par des individus armés, a-t-il rappelé.
Les Nations Unies organisent en avril à Ghadames en Libye une conférence nationale pour débattre des solutions au conflit dans ce pays. La conférence doit notamment fixer une date pour des élections législatives et présidentielles.
Amnesty International accuse l'armée américaine de possibles crimes de guerre en Somalie. L'ONG affirme que 14 civils ont été tués, 7 autres blessés au cours de 5 frappes aériennes répétées contre les islamistes radicaux Shebab en Somalie. Ce que Washington dément vigoureusement, affirmant n'avoir tué aucun civil somalien depuis début 2017. Cependant, AFRICOM reconnaît avoir mené une frappe dans cette zone en décembre dernier, mais à 30 km de là.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La première ministre britannique Theresa May demande ce mercredi à l'Union européenne un report du Brexit jusqu'au 30 juin. Qu'est-ce que ce report signifie à 9 jours de la date théorique de sortie le 29 mars ? John Lyndon revoit pour nous les scénarios possibles.
L'Union européenne a prévu que tout report devra être accepté à l'unanimité par les 27 qui seront réunis jeudi et vendredi à Bruxelles. La Commission européenne recommande, elle, deux options, un report court jusqu'au 23 mai, soit avant les élections européennes, un autre plus long jusqu'au moins fin 2019, selon un document interne. Un nouveau vote sur l'accord de Brexit est aussi envisageable, destiné à mettre en œuvre un Brexit en douceur. Le traité de retrait de l'Union européenne négocié par Theresa May avec Bruxelles a déjà été recalé à deux reprises par les députés britanniques en janvier et la semaine dernière. Theresa May compte néanmoins soumettre au plus vite une nouvelle fois l'accord aux députés en y incorporant des modifications. Un Brexit sans accord est-il possible? Le Parlement a déjà rejeté cette hypothèse, mais cela reste une option par défaut si aucun terrain d'entente n'est trouvé entre Britanniques ou avec l'Union européenne. Enfin, peut-on envisager un second référendum? Il est réclamé par quelques dizaines de parlementaires europhiles, mais a déjà été rejeté la semaine dernière. Et Theresa May n'y est du tout pas favorable.
L'ex-président des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, a été condamné en appel ce mercredi à la prison à perpétuité par la justice internationale. Il a été initialement condamné à 40 ans de prison pour génocide et crimes de guerre. Les juges du tribunal de l'ONU ont donc rejeté son appel contre une décision précédente rendue en 2016 pour des atrocités commises durant le conflit en Bosnie, dont le massacre de Srebrenica, qui a fait plus de 8000 morts en 1995.
Le désherbant Roundup de Monsanto, largement utilisé dans le monde, a contribué au cancer d'un septuagénaire, Edwin Hardman. C'est ce qu'a estimé mardi un jury américain, infligeant un nouveau revers au géant agrochimique qui avait été lourdement condamné dans un procès similaire l'été dernier. Bagasikoura.
Les jurés ont estimé que le plaignant avait su démontrer que le Roundup était un facteur substantiel de son cancer, clôturant ainsi la première phase de ce procès ouvert le 25 février. À la demande du groupe allemand Bayer, qui a racheté Monsanto l'an dernier, les débats avaient été organisés en deux phases. L'une, scientifique, consacrée à la responsabilité du Roundup dans la maladie, et une deuxième devant aborder une éventuelle responsabilité du groupe. À l'énoncé donc du verdict, le plaignant et ses avocats se sont enlacés. « Nous sommes très satisfaits », a réagi une avocate de Hardeman, Jennifer Moore. lui-même ne s'est pas exprimé auprès des journalistes. Nous sommes déçus de ce verdict, a réagi de son côté Bayer dans un communiqué. La deuxième phase du procès, le premier au niveau fédéral, devra cette fois répondre aux questions suivantes. Monsanto connaissait-il les risques? Les a-t-il cachés? Si oui, quels sont les dommages et intérêts qu'il doit payer? Après un verdict historique, le groupe avait déjà été condamné en août à verser 289 millions de dollars à un jardinier malade d'un cancer.
La France ne veut pas du Brésil comme pays membre de l'OTAN, rejetant ainsi une suggestion du président américain Donald Trump lors de sa rencontre hier avec son homologue brésilien Jair Bolsonaro. La porte-parole du ministère français des Affaires étrangères indique que l'OTAN est une alliance des nations liées par une clause de défense collective dont le traité de Washington définit précisément le champ d'application géographique.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco présentée ce soir par Nani Talani.
Gabon, le secteur des assurances a enregistré un chiffre d'affaires de 94,145 milliards de francs CFA en 2018 contre 93,38 milliards l'année précédente, selon la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance. Financial Bank, qui publie cette information, indique qu'avec une part des primes collectées en 2017 en zone CIMA, Conférence internationale des contrôles d'assurance, le Gabon arrive en quatrième position derrière la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal. Le Nigeria veut réduire la facture annuelle de ses importations d'huile de palme évaluée à 500 millions de dollars. D'après la Tribune, cette réduction entre dans le cadre de son programme visant à abaisser la dépendance du pays sur les exportations pétrolières, à diversifier la base productive, à créer des emplois et à préserver la valeur de la monnaie nationale. Gros consommateur d'huile de palme, le Nigeria occupe la cinquième place en production, alors qu'il y a quelques décennies, il était non seulement le premier producteur mondial, mais aussi le premier exportateur d'huile de palme. Terminons cette minute éco avec le producteur de phosphate marocain OCP qui a réalisé une hausse de 19% de son bénéfice net en 2018, soit 562,79 millions de dollars. Cette croissance est due à la demande soutenue et au prix plus élevé des marchés internationaux.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
Mondial féminin des moins de 19 ans en basket, le Mali et le Mozambique sont fixés sur leur sort.
Oui, logé dans le groupe A, le Mozambique hérite de la Lettonie, du Canada et de la Thaïlande, pays hôte. Le Mali, de son côté, se retrouve dans le groupe B avec la Belgique, la Chine et l'Argentine. Le groupe C est composé des États-Unis, de la Hongrie, de la Corée du Sud et de l'Australie. Enfin, la Colombie, le Japon, l'Espagne et l'Allemagne partagent le groupe D. La compétition aura lieu du 20 au 28 juillet prochain.
Basketball toujours, Harden écrase la NBA.
Et oui, en inscrivant la nuit dernière 31 points lors de la victoire de Houston à Atlanta, 121 à 105, James Harden est devenu le premier joueur à infliger au moins 30 points à chacune des franchises de la Ligue lors d'une seule même saison. À 29 ans, The Bird, entendez la barbe, a fait honneur à son titre de MVP 2018. En plus de la moisson de points, il a réussi 10 passes décisives et 8 rebonds lors de ce match parfaitement contrôlé par les Rockets. Avec cette 45e victoire pour 26 défaites, Houston conforte sa troisième place de la conférence Ouest, derrière Golden State et Denver, qui sont déjà qualifiés pour les playoffs.
Football, Moustapha Diallo ne pourra peut-être plus jouer, Yacouba.
Oui, malheureusement, le milieu international sénégalais sévèrement blessé à une cheville quitte le Nîmes Olympique et risque de mettre un terme à sa carrière à seulement 32 ans. Touché à la cheville gauche en championnat face à Marseille lors de la deuxième journée, les examens passés avaient alors décelé une usure importante de son cartilage jusqu'à lui provoquer des douleurs chroniques. Après avoir disputé 7 matchs en début de saison, Moustapha Diallo n'a plus joué depuis la 8e journée à Montpellier et pourrait être contraint de mettre fin à sa carrière. Arrivé à l'Inter saison de Guingamp, après y avoir passé 9 saisons, Moustapha Diallo s'était engagé pour une durée de 2 saisons avec le promu Nîmois.
Et Casillas prolonge avec le FC Porto jusqu'en 2020.
Oui, l'ancien gardien du Real Madrid et de l'équipe d'Espagne âgé de 37 ans a prolongé son contrat avec le FC Porto d'une saison jusqu'en 2020. Le contrat d'Iker Casillas comprend aussi une année supplémentaire en option. Arrivé à Porto à l'été 2015, l'ancien gardien de but emblématique de la Roja a disputé 149 rencontres avec les Dragons, Il avait prolongé son contrat d'un an à la fin de la saison dernière, marqué par le titre de champion du Portugal décroché par le club, le premier de Casillas depuis son arrivée. Le FC Porto est actuellement deuxième du championnat à égalité de points avec le leader, le Benfica Lisbonne, et est aussi qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions où il affrontera Liverpool.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Abdourahmane Dia et Raissa Girondin, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour.
Les autorités centrafricaines et les 14 groupes armés signataires de l'accord de paix en Centrafrique, négocié début février à Khartoum, se sont mis d'accord sur un gouvernement inclusif à Addis Abeba. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure l'Union africaine. Plus tôt, 11 des 14 groupes signataires de l'accord de Khartoum avaient exigé la démission du Premier ministre Firmin Ngrebada. Pour le coordonnateur du groupe de travail de la société civile, Paul Cresson Beninga, ces exigences n'ont aucun intérêt. Écoutons-le au micro de Félix Yepassi-Zambrou.
Je voudrais tout simplement dire qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de penser que la gestion de la chose publique relève de la compétence des groupes armés d'une part et du gouvernement d'autre part. Ça devient un jeu d'enfant auquel on refuse d'assister. Le groupe de travail de la société civile trouve que ces exigences-là n'ont pas leur raison d'être. Et nous comprenons par la même occasion qu'il y a un jeu de ping-pong qui s'opère entre le gouvernement et les groupes armés. Et ça doit s'arrêter. Nous sommes en train de prendre notre responsabilité pour dire que cette comédie-là doit s'arrêter et qu'on doit impliquer tous les acteurs de la vie sociale dans la gestion de la chose publique et qu'on doit arrêter également de penser qu'il va, si peu, il va falloir destituer un gouvernement à l'extérieur. Il y a déjà jurisprudence en la matière. Souvenons-nous qu'en 2013, le président de la République, le président de la transition, Dodja, a été destitué sur une terre étrangère, ainsi que le chef du gouvernement et son gouvernement. Aujourd'hui, on est en train de refaire les mêmes erreurs, celles qui consistent aujourd'hui à destituer un gouvernement à l'extérieur. Nous pensons que ça ne doit pas continuer dans ce sens.
Donc vous contestez ces exigences, mais selon vous, ces négociations d'Addis Abeba ont-elles la chance d'aboutir?
Écoutez, nous ne considérons plus ce qui se passe à Addis Abeba, au niveau de la société civile, au niveau des organisations, nous sommes en train de nous organiser pour tenir une grande manifestation d'ici à vendredi pour dénoncer tout ce qui se passe au niveau d'Addis Abeba et au besoin aller à une rencontre ici, sur le sol centrafricain, une rencontre qui implique tous les acteurs de la vie sociale afin que nous puissions trouver une solution idoine à notre problème.
Paul Cresson Beninga, coordonnateur du groupe de travail de la société civile, joint à Bangui.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
En RDC, changement à la tête de l'ANR, l'Agence nationale des renseignements. Des ONG des droits de l'homme ont initié un dossier judiciaire contre l'ancien patron de cette agence redoutée, Kalev Moutonde. Mais qu'attendre de Justin Inzoun Kakiak, nouvel administrateur des renseignements congolais nommé hier? Eddie Sango a posé la question au directeur exécutif de la Voix des Sans-Voix, Rostin Manketa.
La Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme a accueilli, on peut dire, avec satisfaction le changement à la tête de l'Agence nationale des renseignements. C'est une bonne chose. Le chef de l'État veut impulser le changement à tous les niveaux. Mais nous, ce que nous attendons, c'est pas simplement le changement de personnes, mais le changement même dans le fonctionnement de ces services de renseignement. Il faut que ces services puissent être réellement humanisés. Ça doit être un service qui respecte la dignité humaine, qui respecte les droits humains, un service qui doit contribuer au développement démocratique en République démocratique du Congo. C'est ça qui est très très important pour nous parce que l'ANR par le passé a très mal fonctionné. C'était une machine politique, comme on l'a dit, au service des anciens dirigeants du pays. Donc il faut que l'ANR soit humanisée en ce qui concerne le respect des droits humains, le respect de la dignité humaine. Au lieu que ça soit un service œuvrant pour un individu ou des individus, non, comme c'est un service qui doit travailler pour l'intérêt supérieur de la nation, c'est-à-dire pour la population congolaise.
Mais celui qui a pris les commandes de l'ANR était juste le numéro D. Est-ce que vous pensez que les choses vont changer quand on prend quelqu'un qui était déjà là, qui travaillait avec celui qui dirigeait?
C'est ça justement la grande question. Donc nous sommes un peu réservés. C'est comme ça que nous l'attendons, nous voulons le voir à l'œuvre. Parce qu'il y a le fait qu'il a travaillé avec l'ancien administrateur général de l'ANR, M. Kalev. Est-ce que lui, il va œuvrer pour que les choses aille de manière positive, ou bien il va reproduire l'ancien système, et là, c'est la grande préoccupation. Donc, nous attendons de le voir à l'œuvre, s'il va œuvrer pour les droits humains, le respect de la dignité humaine. C'est ça, je crois, qui est notre grande préoccupation actuellement.
Mais il y a aussi, ces dilemmes, respecter les droits humains, humaniser, mais il y a aussi cette menace. Les Congos ont toujours été menacés. Comment concilier les deux?
Le plus important, c'est la volonté que le nouveau chef de l'ANR a de faire bouger les choses, de faire changer les choses, pour que, en fait, que nous ayons un service de renseignement, comme nous le disons, humanisé, un service de renseignement au service de la population congolaise, et non un service de renseignement au service d'un individu ou d'un groupe d'individus. Si le Congo est menacé, le service, le cas échéant, l'ANR, doit œuvrer pour que les Congolais soient en sécurité. Nous n'avons pas besoin d'un service qui réprime la population.
C'était Rostin Manketa, directeur exécutif de la Voix des Sans-Voix à Kinshasa.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Le président Donald Trump s'en prend aux médias sociaux. Il accuse, entre autres, Facebook, Google et Twitter d'être biaisés et estime que ces compagnies méritent d'être contrôlées. Lui-même grand utilisateur de Twitter, le chef de l'État américain apporte son soutien au député républicain Devin Nunes de Californie, auteur d'une plainte pour diffamation et négligence contre Twitter. Le point avec Lionel Gaïma.
Membre de la commission du renseignement de la Chambre des représentants et ancien membre de l'équipe de transition du président Trump, Devin Nunes a porté plainte lundi contre Twitter et trois de ses utilisateurs, soutenant que Twitter a délibérément laissé fonctionner des faux comptes utilisés pour l'insulter. Le député républicain réclame quelque 250 millions de dollars de dommages et intérêts. Répondant mardi à une question lors d'une conférence de presse conjointe à la Maison-Blanche avec son homologue brésilien Jair Bolsonaro, le président Trump a accusé les médias sociaux de tendre à supprimer les points de vue républicains et conservateurs.
Des choses se passent, des noms sont supprimés, les gens n'arrivent pas à se faire entendre. Vous avez entendu les mêmes plaintes et s'il semble qu'ils sont conservateurs, s'ils sont républicains, s'ils font partie de certains groupes, alors il y a de la discrimination, une grande discrimination. Je le vois clairement sur Twitter et Facebook.
Le président Trump a assuré atteindre plus de 100 millions de personnes sur Twitter et d'autres plateformes digitales et a souligné qu'il prend avantage de cette situation. Ce qui n'empêche pas le chef de l'exécutif américain d'accuser ses médias sociaux d'être biaisés. Mardi, le responsable des médias sociaux de Trump, Dan Scavino, a publié un message coléreux sur Facebook, exigeant de savoir pourquoi ses propres commentaires sur sa page ont été bloqués. Facebook s'en est excusé, imputant cet incident à un problème d'algorithme. Donald Trump accuse régulièrement les médias sociaux, les chaînes de télévision et autres de faire cause commune avec ce qu'il appelle les démocrates radicaux de gauche.
Les gens sont intelligents, ils comprennent, ils font face à tout cela. Et ils prennent tout ce qu'on leur présente et à la fin, ils poussent le bon bouton pour voter. C'est une situation très dangereuse et je suis d'accord, cela mérite d'être regardé de très près.
La plainte du député républicain Devin Nunes contre Twitter a relancé, ici aux États-Unis, le débat sur la question de savoir si une régulation des médias sociaux constituerait de la censure ou au contraire une protection contre le harcèlement et la diffamation.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
L'assurance maladie devrait être à nouveau un sujet de discorde lors de l'élection présidentielle américaine de 2020. Les démocrates réclamant une plus grande implication du gouvernement et les républicains mettent en garde contre une augmentation des taxes et de ce qu'ils considèrent comme un socialisme rampant. Reportage de Brian Padden, le récit est de John Lindon.
L'adhésion du public à l'assurance maladie a aidé le Parti démocrate à prendre le contrôle de la Chambre des représentants lors des élections de 2018. Et ses défenseurs estiment qu'elle aidera également les candidats du parti en 2020. Anne Shoup de Protect Our Care.
L'assurance maladie est une option gagnante pour les démocrates. Donc je pense que quelle que soit la manière dont ils aborderont ce sujet et les solutions, cela leur sera bénéfique.
Les républicains ont dû faire face aux critiques selon lesquelles les efforts des conservateurs visant à réduire les financements publics priveraient de nombreuses personnes de soins. Meridian Bolton, The Heritage Foundation.
Personne n'essaie de refuser les soins de santé aux malades. Ce qui compte, c'est la façon dont nous y parvenons.
L'augmentation du coût des soins de santé reste une préoccupation majeure aux États-Unis. Le sénateur Bernie Sanders, qui a perdu l'investiture démocrate à la présidentielle de 2016, a de nouveau promis d'étendre le programme de soins du gouvernement destiné aux personnes âgées afin de fournir l'assurance maladie universelle financée par une augmentation des impôts. Bernie Sanders, démocrate du Vermont.
L'objectif d'un système de soins de santé rationnel n'est pas d'offrir aux compagnies d'assurance des milliards de dollars de profit et de rémunérer leur PDG.
D'autres sénateurs influents soutenant cette expansion sont notamment les sénateurs Kamala Harris de la Californie et Elizabeth Warren du Massachusetts. Mais il est à craindre qu'une proposition de prise de contrôle du secteur de la santé par le gouvernement d'une valeur de 2 000 milliards et demi de dollars puisse aliéner les électeurs centristes lors des élections générales. Des candidats démocrates plus modérés tels que le sénateur du Minnesota, Amy Klobuchar, et l'ancien vice-président Joe Biden, qui envisage toujours de se porter candidat, souscrivent à des mesures graduelles comme un plan gouvernemental d'options publiques pour faire concurrence aux compagnies d'assurance privées. Mais une telle approche peut aliéner la base progressiste du parti qui appelle à un changement radical. Le président Donald Trump.
Les législateurs démocrates adoptent maintenant le socialisme. Ils veulent remplacer les droits individuels par une domination totale du gouvernement.
Au cours de la campagne de 2016, Trump avait promis de ne pas supprimer les programmes d'assistance. Mais dans le budget de cette année, le président a proposé de réduire le financement de l'aide médicale aux personnes âgées et aux démunis.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
I'm gonna play some flip cup and rock a little bit of hip hop and Haggard and Jagger and throw a 20 on a cornhole game. If I'm lucky, I might get laid. The way that it's going, that kid gonna be floating. All I wanna do today is wear my favorite shades and get stoned. Work a little less, play a little more. That's what this day. Get on my Harley. I'll set you up on the kitchen sink and stick a pink up.
Et ainsi va le monde aujourd'hui. C'était le groupe Florida à la mise en onde, Michel Joseph à la console, Mr. Justin à la présentation, Raissa Girondin et Abdourahman Dia.
On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. VOA